2.8 Expliquer en quoi l'évangile de la prospérité est contraire à la Bible et à l'éthique. Lecture de la Bible, Galates 3.14, 2 Corinthiens 8.9, 3 Jean 2.34. J'ai basé ces notes sur un article très utile intitulé « The Bankruptcy of the Prosperity Gospel », un exercice d'éthique biblique et théologique. Au cours des dernières années, l'Église a malheureusement assisté à la montée de plusieurs philosophies et mouvements impies, dont l'un a reçu de nombreux noms, tels que l'Évangile, nommez-le et réclamez-le, l'Évangile, parlez en et emparez-vous-en, l'Évangile, santé et richesse, le mouvement, parole de foi, l'Évangile du succès, l'Évangile de la prospérité et la théologie de la confession positive. Les partisans de cette philosophie peuvent l'appeler par des noms différents, mais le but est le même, à savoir que Dieu veut que les croyants soient matériellement riches. Les enseignants de l'Évangile de la prospérité encouragent leurs disciples à prier, voire à exiger de Dieu tout ce qui va de la voiture, de la camionnette, du camion, voire de l'avion biplace, à la maison, au mobilier et à un compte en banque bien garni. L'article souligne la théologie erronée et l'interprétation biblique erronée des enseignants de ce mouvement et prouve que les enseignements de l'Évangile de la prospérité concernant l'acquisition et l'accumulation de richesses sont incorrects d'un point de vue éthique. L'article rappelle au lecteur qu'une théologie incorrecte conduit à des croyances erronées sur Dieu, sa parole et ses relations avec les hommes. L'évangile de la prospérité repose sur une théologie erronée. Par conséquent, nombre de ces doctrines, y compris les enseignements concernant la richesse, sont erronés. Il énumère quatre domaines cruciaux d'erreurs liés à leurs enseignements sur la richesse, à savoir l'alliance abrahamique, l'expiation, le don et la foi. La première erreur est la manière dont les partisans de l'évangile de prospérité interprètent l'alliance abrahamique. Ils affirment que le but premier était que Dieu bénisse Abraham matériellement. Puisque les croyants sont maintenant les enfants spirituels d'Abraham, ils ont donc hérité de ces bénédictions financières de l'Alliance. L'article dit ceci. Le professeur de prospérité Kenneth Copeland a écrit, « Puisque l'Alliance de Dieu a été établie et que la prospérité est une disposition de cette Alliance, vous devez réaliser que la prospérité vous appartient maintenant. » Se référant à la théologie de la prospérité de Kenneth Hagin, l'auteur Harvey Cox a écrit, « Grâce à la crucifixion du Christ, les chrétiens ont hérité de toutes les promesses faites à Abraham, et celles-ci comprennent à la fois le bien-être spirituel et matériel. » Pour étayer cette affirmation, les enseignants de la prospérité tels que Copeland et Hagin font appel à Galates 3:14, qui dit « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, bien qu'il ne soit pas exagéré de dire que les problèmes liés à cet argument sont légion, deux problèmes flagrants doivent être abordés. » Premièrement, en faisant appel à Galates 3:14, les enseignants de la prospérité ignorent la seconde moitié du verset, qui se lit comme suit, « et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Dans ce verset, Paul rappelle clairement aux Galates la bénédiction spirituelle du salut, et non la bénédiction matérielle de la richesse. Deuxièmement, selon l'auteur de l'article, les enseignants de la prospérité prétendent que le canal par lequel les croyants reçoivent les bénédictions d'Abraham est la foi. Le problème est que l'alliance d'Abraham était une alliance inconditionnelle. L'auteur explique. En d'autres termes, les bénédictions de l'alliance abrahamique ne dépendaient pas de l'obéissance d'un seul homme. Par conséquent, même si l'alliance abrahamique s'appliquait aux chrétiens, tous les croyants feraient déjà l'expérience des bénédictions matérielles, indépendamment de la théologie de la prospérité. Le deuxième problème de la théologie de la prospérité est sa vision erronée de l'expiation. Ken Sahl a écrit que l'évangile de la prospérité prétend que la guérison physique et la prospérité financière ont été assurées par l'expiation. Kenneth Copeland a déclaré que le principe de base de la vie chrétienne est de savoir que Dieu a mis notre péché, notre maladie, notre chagrin, notre peine et notre pauvreté sur Jésus au calvaire. Cette incompréhension de l'expiation découle de deux erreurs commises par les partisans de l'évangile de la prospérité. Tout d'abord, beaucoup d'entre eux ne comprennent pas la vie du Christ. Par exemple, John Avanzini a proclamé que Jésus avait une belle maison, une grande maison, Jésus manipulait beaucoup d'argent et qu'il portait même des vêtements de marque. De toute évidence, sa vision déformée de la vie du Christ l'a conduit à une conception tout aussi erronée de la mort du Christ, peut-on lire dans l'article. Une deuxième erreur de la théologie de la prospérité, qui aboutit également à une vision erronée de l'expiation, est sa mauvaise interprétation de 2 Corinthiens 8:9. Tous les partisans de l'évangile de la prospérité s'appuient sur ce verset pour soutenir leur vision de l'expiation. Le verset se lit comme suit. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Le problème de l'interprétation donnée par les partisans de l'évangile de la prospérité est, bien sûr, que dans ce verset, Paul n'enseignait pas que le Christ est mort sur la croix pour accroître la richesse de quiconque, mais, en fait, Paul enseignait exactement le principe inverse. Dans le contexte de ce chapitre, Paul enseignait aux Corinthiens que, puisque le Christ avait accompli tant de choses pour eux par le biais de l'expiation, ils devaient se dépouiller de leurs richesses au service du Sauveur. C'est pourquoi, 5 versets plus loin, Paul exhorte les Corinthiens à donner leurs richesses à leurs frères dans le besoin, en disant, afin que, maintenant, en ce moment, votre abondance subvienne à leur manque. Les théologiens de la prospérité semblent être obsédés par l'acte de donner. Les adeptes sont exhortés à donner généreusement, car lorsqu'ils le font, Dieu leur rend davantage en retour. Cela conduit à son tour à un cycle de prospérité croissante. Comme l'a dit Gloria Copeland, donnez 10 $ et recevez 1 000 $, donnez 1 000 $ et recevez 100 000 $. En bref, Marc 10h30 est une très bonne affaire. Il est donc évident que la doctrine de l'évangile de la prospérité en matière de dons repose sur des motivations erronées. Alors que Jésus a enseigné à ses disciples à donner sans rien espérer en retour, les théologiens de la prospérité enseignent à leurs disciples à donner parce qu'ils obtiendront un grand retour. Le prochain domaine de la théologie de la prospérité que nous devons étudier est la doctrine de la foi. Dans son livre « Les lois de la prospérité », Kenneth Copeland écrit que « la foi est une force spirituelle, une énergie spirituelle, un pouvoir spirituel. C'est cette force de la foi qui fait fonctionner les lois du monde spirituel. Il existe certaines lois régissant la prospérité révélées dans la parole de Dieu. La foi les fait fonctionner. L'article dit que ceci est manifestement une compréhension erronée, sinon hérétique, de la foi. Plus loin dans le même livre, Copeland écrit que, si vous décidez que vous êtes prêt à vivre dans la prospérité et l'abondance divine, la prospérité divine s'accomplira dans votre vie. Vous avez exercé votre foi. Ainsi, pour la théologie de la prospérité, la foi n'est qu'un moyen d'obtenir des gains matériels. Cela s'oppose clairement à l'acceptation de la justification céleste et est donc erronée. Les partisans de l'évangile de la prospérité citent de nombreux versets bibliques, mais ils ne prêtent guère attention aux principes d'interprétation. Il en résulte, selon l'auteur, un ensemble d'idées et de principes fondés sur une distorsion du sens du texte. Voici un exemple, 3 Jean 1h2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'article dit. Ce verset est interprété par les enseignants de la prospérité comme signifiant que Dieu veut que tous les croyants prospèrent en toutes choses. En outre, leur interprétation de ce verset montre clairement qu'ils affirment que la prospérité matérielle est indissociable de la croissance spirituelle. Oral Roberts, considéré par beaucoup comme le père du mouvement de l'évangile de la prospérité, a affirmé au début de son ministère, à une époque où il cherchait une direction, que Dieu l'avait miraculeusement conduit à 3 Jean 2, qu'il considérait comme une révélation de l'évangile de la prospérité. Kenneth Copeland a également construit son ministère autour de cette interprétation erronée de 3 Jean 2. Si nous étudions attentivement ce verset, nous constatons qu'il n'est pas une carte blanche pour approuver les enseignements de l'évangile de la prospérité. Cependant, le but de Jean en écrivant 3 Jean 2 n'était pas d'enseigner une doctrine, il s'agissait simplement d'ouvrir sa lettre par une salutation. Deuxièmement, examinons le mot « prospérité » tel qu'il apparaît dans ce verset. Ce mot grec, qui n'est utilisé que 4 fois dans les Écritures, ne signifie pas prospérer dans le sens de « gagner des biens matériels », mais signifie plutôt « accorder une expédition prospère et un voyage rapide » ou « conduire par un chemin direct et facile ». La formulation des traductions modernes telles que la New International Version reflète même cette nuance du mot. Il est donc évident que les enseignants qui comprennent 3 Jean 2 pour enseigner la théologie de la prospérité interprètent mal le texte. L'auteur conclut donc que la théologie de la prospérité est erronée pour les raisons suivantes. 1. L'évangile de la prospérité repose sur une mauvaise compréhension de l'alliance abrahamique. 2. L'évangile de la prospérité repose sur une mauvaise compréhension de l'expiation. 3. L'évangile de la prospérité repose sur une mauvaise compréhension des enseignements bibliques en matière de dons. 4. L'évangile de la prospérité repose sur une mauvaise compréhension des enseignements bibliques sur la foi. 5. L'évangile de la prospérité, en général, a été construit sur une interprétation biblique erronée. Il a également une vision erronée de la relation entre Dieu et l'homme. En d'autres termes, si l'évangile de la prospérité est correct, la grâce devient obsolète, Dieu n'a plus d'importance et l'homme est la mesure de toute chose. Qu'il s'agisse de l'alliance abrahamique, de l'expiation, du don, de la foi ou de l'interprétation biblique d'un verset donné, l'enseignant de la prospérité cherche à transformer la relation entre Dieu et l'homme en une transaction financière de type quid pro quo. Note, quid pro quo signifie quelque chose qui est donné à une personne en échange de quelque chose qu'elle a fait. Le docteur Chris Wright s'exprime avec justesse. Nous devrions certainement affirmer ce que la Bible dit au sujet de la bénédiction de Dieu, y compris les bénédictions matérielles, de la puissance miraculeuse de l'Esprit de Dieu et de la victoire de Dieu sur tout ce qui écrase et maudit la vie humaine. Mais de nombreux promoteurs de cet enseignement déforment la Bible, citant et qu'ils l'utilisent. Ils font appel à la cupidité humaine ou exploitent les besoins humains. Ils n'ont pas de place pour l'enseignement de la Bible sur la repentance, la souffrance et la prise en charge de la croix. Ils ne parviennent qu'à s'enrichir et à s'adonner à un mode de vie consumériste et étalage de richesses qui est tout à fait contraire à l'enseignement et à l'exemple du Christ. Il s'agit certainement de l'idolâtrie de la cupidité. Pour conclure cette section, il est également important de dire qu'il faut travailler dur, plutôt que de faire des déclarations prophétiques inconsidérées. Andy Mills, dans son excellent article « Key Points About Work in the Bible Every Christian Should Know », présente les points clés suivants. 1. Le travail fait partie de la vision globale de Dieu. 2. Notre travail actuel a de l'importance pour Dieu, maintenant et éternellement. 3. Dieu nous dote de compétences, de dons et de talents uniques, et nous appelle à des rôles et des activités particuliers. 4. La qualité, le caractère et l'éthique sont les fondements de notre travail. 5. Nous devons travailler comme si nous étions sous le joug de Jésus-Christ. 6. Notre travail doit être centré sur le service aux autres. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, l'utilisation des richesses et nos investissements doivent être dirigés par Dieu. 9. L'œuvre de Dieu se multiplie grâce aux relations et à l'Église locale. 10. Le travail est un don de Dieu. Cher animateur, tant de nos pasteurs sont pris au piège de l'évangile de la prospérité. Ils voient ces prédicateurs à la télévision conduire des voitures de luxe, porter des costumes blancs et de nombreux bijoux en or, etc. Et ils considèrent que c'est la voie à suivre. S'il vous plaît, enseignez ce résultat de manière à ce qu'à la fin, vos étudiants aient plutôt envie de suivre l'exemple du Christ, qui a vécu une vie très simple et a mis en garde contre les dangers de la richesse.